La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la conversation littéraire. Aujourd'hui, une conversation littéraire du désir et de son contraire, de la passion et de la dépassion, de l'amour et du désamour, avec deux autrices, une romancière et une philosophe, Emma Becker et Fabienne Brugère. Bonjour Emma Becker.
Bonjour.
Bonjour Fabienne Brugère.
Bonjour.
Fabienne Brugère, vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie moderne, d'esthétique et d'éthique, enseignante à l'Université de Paris 8, et vous avez publié il y a quelques mois aux éditions Flammarion l'essai « Désaimer », traité du désamour, de la rupture et de l'abandon, sous-titré « Manuel d'un retour à la vie ». Emma Becker, quant à vous, vous êtes autrice, romancière du vécu, on peut dire. Vous avez publié notamment « La maison » qui décrivait la vie dans une maison close de Berlin, puis « L'inconduite » en 2022, pour lequel j'avais eu le plaisir de vous recevoir à ce micro. Et cet automne est paru aux éditions Albin Michel « Le mal joli », récit qui n'a laissé indifférent ni la presse ni les lecteurs, récit d'un adultère, certes, mais surtout récit d'une passion, de ses plaisirs et de ses affres, enfin surtout peut-être de ses plaisirs d'ailleurs. Pour résumer, on pourrait dire ceci, Emma B. tombe passionnément amoureuse, elle se laisse aller à un amour extra-conjugal et s'y abandonne. Ma première question, Emma Becker, concerne la chronologie de ce récit. Est-ce qu'on peut écrire une passion amoureuse en direct? Ou au contraire, est-ce que la littérature veut un autre temps? À quel moment est-ce que le sujet du roman que vous êtes en train d'écrire bascule et vous revenez finalement sur ce que vous venez de vivre?
Vaste question. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai commencé à écrire ce livre parce que je me disais, t'as tellement le nez dans le guidon que tu n'as plus aucun discernement, et ma façon de retrouver un peu de discernement, c'est d'écrire. Donc, je me suis dit que j'allais décrire cette passion-là comme une maladie qui me tombait dessus, parce que c'était un petit peu ça. Ça brouillait tout mon jugement. Et effectivement, qu'est-ce qu'on appelle écrire à chaud? Parce que c'est un livre que j'ai écrit pendant que l'histoire se déroulait, mais écrire 5 minutes après une scène et puis écrire 2 semaines après, c'est pas exactement la même chose. Donc quand vous parlez d'un temps différent de la littérature, je pense que c'est tout à fait vrai, et c'est là que se trouve la part de fictionnalisation aussi dans mon genre d'autofiction. C'est le moment aussi que je choisis pour raconter telle ou telle scène.
Vous appelez ça autofiction, mais est-ce que vous partez par exemple d'un journal? Est-ce que vous écrivez parce que dans le livre, dans Le Mal Joli, donc, vous citez les messages, par exemple, que vous êtes écrits avec Antonin au début de votre passion, qui correspond à peu près à disons, au premier tiers du livre.
Ouais.
Et là, on vous lit, on a l'impression, en tout cas, de vous lire au jour le jour. Alors peut-être, évidemment, il y a de la retouche, des reprises. On revient toujours, bien sûr, sur ce qu'on a fait. Mais néanmoins, est-ce que pour vous, ça constitue aussi un journal, une trace, des matériaux à partir desquels vous travaillez vos propres souvenirs?
Mais moi, j'ai jamais vraiment travaillé avec un bloc-notes. J'ai pas tendance à m'arrêter de vivre pour noter une pensée. Après, quand on voit la vie que j'ai à ce moment-là avec mes enfants, j'habite pas à Paris, j'ai quand même du boulot à côté de ça. Tout ça constitue déjà une contrainte d'écriture. Les moments où je peux écrire sont des moments où je rembobine tout ce qui vient de se passer. C'est les moments que je choisis pour écrire telle ou telle scène. C'est un processus d'écriture un peu particulier que je mets en place aussitôt que j'ai 5 minutes devant moi, mais je suis pas quelqu'un qui note. Je me fais confiance pour me souvenir des choses qui sont importantes à raconter. Donc déjà, il y a un premier tri qui est fait quand je me pose devant mon ordinateur. Je sais précisément de quoi je vais parler.
Emma Becker, la rencontre avec Antonin va transformer votre vie, mais cette transformation n'était pas prévue. Et est-ce que justement le il y a quand même un moment de bascule, vous vous dites ah là je sais que ce sera un livre, que ce sera non seulement la transformation de ma vie mais que ça va aussi devenir un livre?
Bah, c'est-à-dire, je voulais qu'il me reste au moins un livre. Quand j'ai commencé à l'écrire, je me disais, de toute façon, à un moment, il va partir. Antonin va me quitter, il va retrouver la raison. Et tout ce qui va me rester, bah, ce sera ce livre, qui sera le témoignage d'une époque. C'était vraiment une façon de ne pas me retrouver seule que d'écrire ce livre, parce que je connais mon caractère. Et je sais que, pour moi, le bonheur au long cours ne vaut pas grand-chose et que j'ai souvent sauté d'embrasement en embrasement. Et au début, je ne pensais pas que cet embrasement serait différent des autres. Je savais juste qu'il me faut quelque chose pour séparer, pour supporter la séparation à venir, et ce sera mon livre.
Vous écrivez « Quelles sont belles ces chambres d'hôtel qui vous attendent et attendent l'amour ».
Oui.
Il y a quand même une forme aussi de prédisposition. J'ai Emma Becker, l'écrivaine, justement, de ces chambres d'hôtel dont on sent que on a envie qu'il s'y passe quelque chose.
Ah, mais je pense que de toute façon, il y a des gens qui sont prédisposés à l'amour, enfin à la passion en tout cas, et des gens qui peut-être ne seront pas dévorés par le même genre d'histoire. Moi, je sais que j'ai organisé ma vie et mon esprit pour être comme ça disponible pour l'amour quand il me tombe dessus. Et à côté de ça, quand vous avez cette disposition d'esprit, tout le monde autour de vous devient une scène de théâtre. Donc, les chambres d'hôtel sont une scène sur laquelle se joue quelque chose. Et puis, même dans l'absence, il y a déjà une forme de tout devient, quand vous vous mettez dans cette disposition-là d'écrire ce qui vous arrive, tout devient un événement. Le moindre trajet en train est un sujet d'écriture.
Alors tout ça commence par un roman épistolaire, un peu 2.0, avec les messages que vous échangez avec Antonin, parce que c'est aussi une passion littéraire, une passion entre deux écrivains. Et c'est ça aussi qui fait un peu l'originalité du Mal Joli, c'est que ce sont des personnages de mots. Et donc, les messages qui s'échangent sont pas juste « viens à telle heure, j'arrive à ce moment-là », mais il y a toute une forme d'amour et de passion qui se décrit dans ces messages. Bah, quelque chose qui monte, en fait. D'amour, de passion, en tout cas de désir qui grandit à travers les mots.
Mais en fait, à la base, on avait mis en place un système tacite de un message par jour, pas plus. Parce qu'on se disait que dans cette rareté, ça constituerait un cadre dont on ne pourrait pas sortir. Ça nous éviterait de trop nous attacher l'un à l'autre. Mais évidemment, quand on est entre deux écrivains, vous pensez bien que cet unique message par jour va finir par faire 30 pages. Parce que c'est notre seul moment pour nous parler. Et c'est vrai que l'échange de mots, l'échange d'un langage qui est le nôtre et dont on se sert comme un peintre se sert de ses couleurs, de ses pinceaux, pour moi, c'est déjà ce qui rendait cette histoire implacable. Je n'avais jamais été avec un écrivain. J'imagine qu'inconsciemment, c'était un petit peu mon rêve de pouvoir partager quelque chose qui est difficile à partager avec les autres. C'est-à-dire, c'est un métier compliqué à expliquer aux autres. Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain? De quoi on se sert pour écrire? Quand est-ce qu'on est en train de travailler? Est-ce que c'est juste quand on est devant notre clavier ou est-ce que c'est tout le temps? Et là, je me retrouve face à un homme qui forcément comprend ce qu'est ma vie, et moi je comprends ce qu'est la sienne. Donc même dans ce message par jour qui constitue un cadre, c'est quand même le moment qu'on va trouver pour justement perdre complètement les pédales, parce que ce langage est déjà une autre façon de s'aimer.
Et bien Becker, le Mal Joli, alors il y a le fait que ce soit deux écrivains, mais c'est aussi la confrontation de deux mondes, de deux univers, l'écrivain parisien, l'écrivaine parisienne que vous êtes par moment, avec amant donc, à Paris, et puis le monde de la province dans laquelle vous vivez, de la petite ville, que vous ne décrivez pas vraiment d'ailleurs, où vous êtes mère, avec maison et mari.
Oui. Et je ne vis pas à Paris. Et quand on est écrivain, vous savez bien que il y a quand même tout un petit monde qui fait les lois de la littérature et qui est à Paris. Et j'avais forcément cette sensation de quand je repartais de Paris pour retourner chez moi dans ma province, il y avait une sensation de déclassement, évidemment, parce que je partais de mon monde professionnel, je quittais l'homme dont j'étais en train de tomber amoureuse et chez qui je remarquais tout un tas d'habitudes parisiennes que je n'avais absolument pas. Donc au début, ce côté exotique de l'aristocrate est quelque chose que je trouve très stimulant. Et puis quand cette passion commence à se transformer en amour, ces mêmes choses deviennent une menace. C'est-à-dire que j'ai bien la sensation de deux mondes qui s'entrechoquent et qu'il va être difficile de réconcilier.
Oui, puisqu'Antonin, il faut préciser pour les auditrices et les auditeurs, Antonin est lui-même écrivain. donc cet amant que vous rencontrez dans des milieux justement très très littéraires, mais il est aussi, enfin, il a un nom à consonance très aristocratique avec deux particules, et il a un monde bien à lui, justement, extrêmement parisien. Mais Paris, c'est aussi la ville de l'amour. Enfin, vous êtes
pas bien sûr.
Et donc, est-ce que c'est aussi une passion parisienne? Est-ce que vous pensez que si vous aviez rencontré Antonin dans votre petite ville, à la gare de Relais H, est-ce que ça se serait produit de la même façon?
Bah, probablement pas, parce que j'ai toujours eu avec Paris un rapport très particulier. Moi, j'ai jamais vraiment vécu à Paris. En revanche, j'y ai fait mes études, j'allais m'y promener comme tous les étudiants. Et j'ai toujours eu cette sensation d'une ville trop belle pour être réellement aimable. En fait, je faisais souvent cette distinction quand j'habitais à Berlin. Paris, pour moi, c'était la maîtresse qui vous coûtait une fortune, mais dans la proximité de laquelle vous vouliez absolument être, quitte à ne plus pouvoir dîner après. Et Berlin, c'était la maîtresse avec laquelle on n'a pas forcément envie de sortir. C'est pas la plus jolie maîtresse qu'on pourrait montrer au monde, mais c'est la plus attachante. Et j'avais toujours avec Paris cette espèce de rapport de c'est une ville à conquérir. Donc j'arrive dans les bras de cet amant qui en connaît tous les codes, qui connaît les rues par cœur, qui est installé dans ce petit monde depuis 30 ans. Bien sûr qu'il y a une petite fille en moi qui a l'impression d'être arrivée à quelque chose, qui a trouvé le prince charmant, le vrai prince charmant, qui connaît tous ces codes qu'elle ne connaît absolument pas.
Il y a une homonymie assez amusante entre Emma B., Emma Becker, et une autre, Emma B., elle-même en province, qui rêve, tombe, fantasme d'un amour et d'avoir des amants, sauf que dans Le Mal Joli, c'est extrêmement différent parce qu'on ne voit pas Charles. Le mari, qui est pourtant une des clés du problème, entre guillemets, en tout cas, qui est extrêmement présent dans votre vie à ce moment-là, est complètement absent. C'est comme si vous l'aviez gommé. Il en est question par moment.
Bien sûr.
Sa famille et la vôtre apparaît, la maison où vous vivez ensemble, ses enfants, mais lui, vous l'avez effacé.
Mais c'est pas que je l'ai effacé. Disons que si on parle de Charles Bovary, je crois qu'on ne parle pas des mêmes dynamiques non plus.
Bien sûr.
Emma Bovary n'a pas tellement eu le choix. Elle a pris le mari qu'on lui donnait, qui était sympa, tout ça. Moi, mon mari, je l'ai choisi. Et je l'ai choisi et je l'aime et je l'aimais toujours au moment de cette histoire. Simplement, quand on écrit un livre comme celui-là, en sachant qu'une partie des gens qui composent votre vie vont être entraînés dans ce processus de dévoration qu'est l'autofiction, il y a effectivement une urgence à tout dire. Mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et une façon de protéger mon mari comme la compagne d'Antonin à cette époque-là, c'est de ne pas leur donner de nom, c'est de ne pas trop les décrire, c'est d'essayer d'en faire la femme ou le mari de l'autre, tout simplement. C'est un archétype, on essaie de transformer ces gens-là en archétypes, et c'est autant une façon Oui, c'est une façon de les protéger, alors que par ailleurs, parce que je trouve que la démarche de l'autofiction est par moments cruelle et difficile à justifier, moralement.
Oui. Enfin, on n'imagine pas trop les sentiments que pourrait provoquer la lecture du Mal Joli chez ces deux personnes. En fait, ça doit être extrêmement cruel.
J'imagine que c'est extrêmement cruel. Après, moi, je vis encore avec mon mari, donc j'ai eu quand même quelques retours sur tout le processus. Je crois qu'il ne faut jamais présager des réactions des gens. Je crois que mon mari, en l'occurrence, est un homme qui a compris dès le départ que j'étais écrivain et qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur la manière dont je travaille. Il s'est toujours prêté très obligeamment au personnage que je lui inventais dans mes livres. Mais parce qu'il a compris quelque chose, c'est qu'il ne faut pas tout comprendre, je crois, quand on partage la vie d'un écrivain.
Alors Le Mal Joli, c'est aussi l'histoire d'une distance, parce que bon, c'est l'histoire de retrouvailles, de gens qui s'aiment passionnément et qui passent quelques moments ensemble, mais il y a aussi, et je pense que c'est parmi les descriptions qui m'ont plus fasciné du livre, de cette distance, et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas avec l'autre, et qu'on retrouve justement cette vie dont en fait on ne peut plus ou qu'on ne peut plus avoir. Et vous écrivez « Pendant que je suce mon mari à 5 heures de train de là, Antonin se couche avec Juliette et la seule chose que nous partageons encore à ce moment précis où tout nous sépare, c'est un frisson à l'idée de ne pas pouvoir raisonnablement nous endormir tout de suite. »
Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on partage en fait quand, dans l'absence, on partage déjà l'absence qui est presque un personnage en soi, c'est-à-dire l'absence d'Antonin à ce moment-là me tient compagnie toute la journée, c'est-à-dire qu'on est dans un espèce de culte des moments passés et de ceux à venir, on ne voit pas au-delà du rendez-vous qu'on va avoir dans 15 jours, et vous imaginez à quel point la vie, après ce rendez-vous tellement attendu, prend des proportions minables, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'avait rien prévu au-delà de ça, et que toute notre existence tenait dans ces 15 minutes, dans ces 2 heures qu'on va partager. Et le vrai déclassement dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est pas tellement l'aristocratie, c'est pas la province. Le déclassement, c'est cette sensation de revenir dans une vie qui n'a pas du tout les proportions qu'elle avait il y a quelques minutes dans notre tête. Et puis, il y a quand même une problématique qui n'est pas anodine, c'est les enfants en bas âge. Et je crois que c'est ça, vraiment, le déclassement ultime, ce que j'appelle le prolétariat constant de la petite enfance, quoi. C'est-à-dire une vie qui n'est plus gouvernée que par les exigences de ces petits êtres. Et vous-même, vous êtes en pilote automatique. Donc, quand on a cette vie-là et qu'il faut en même temps avoir une vie intérieure avec l'amant et puis se concentrer suffisamment pour envoyer un message de 30 pages le soir, vous pensez bien que votre propre vie à vous, celle que vous menez pour vous-même, ses proportions se réduisent à peau de chagrin. C'est ça, le déclassement.
Mais est-ce que c'est aussi... est-ce que ça rend, de fait, la vie dans laquelle on revient invivable, au sens où on essaye de ne pas être là, même quand on y est, on essaye de s'en abstraire?
Mais c'est en ça que je dis que la passion est une maladie, c'est-à-dire que il n'y a plus que l'autre, plus rien n'existe que la prochaine fois qu'on verra l'autre, et ces choses qui jalonnaient votre vie, qui étaient les enfants, le mari, et puis le bonheur simple, le bonheur pas questionné, de simplement vivre une vie agréable avec des rendez-vous qui nous font plaisir, quand tout ça disparaît, vous n'avez plus la jugeote nécessaire pour vous dire que il y a toute une vie qui existe en dehors de l'autre, vous n'êtes plus en vous-même, vous n'êtes avec cet autre-là qui n'est pas là. Donc c'est pour ça que je décris ça comme une affliction physique, c'est-à-dire comme le dit le philosophe Alain, il faudrait peut-être considérer cette mélancolie comme une maladie physique, parce qu'on se mettrait à la traiter comme telle, c'est-à-dire qu'on se foutrait la paix.
Vous venez de parler d'Alain, c'est un des livres du qui est constant un peu dans Le Mal Joli, hein, du début à la fin, qui vous accompagne en tout cas dans cette passion. Alain écrit « Il y a toujours du remords et de l'épouvante dans la passion ». Et bien par sûr. Raison, il me semble.
Bien sûr. Mais Alain est toujours d'une justesse. Enfin, ça m'a toujours servi de. Ça m'a servi de béquille vraiment pendant tout ce livre où je n'avais aucune autre cellule de sécurité. Et c'est vrai qu'on trouve dans ce pragmatisme. Enfin, je trouve beaucoup d'enseignements très très actuels. À savoir, moi, je me suis sortie de cette panade-là en essayant de me tenir occupée. C'est-à-dire que précisément à un moment où je me disais je ne veux plus être avec mes enfants, je ne veux plus avec mon mari, Alain m'y a remise de bon cœur en me disant mais pendant que tu es en train de changer les couches des enfants, de faire chauffer les coquillettes, de faire ci, de faire ça, en fait, tu ne penses plus à l'autre, tu n'es plus malheureuse. Et j'ai trouvé que c'était d'une actualité et d'une justesse folle.
Oui, d'une cruauté peut-être aussi.
Bien sûr. Alors il y a tout un moment où Alain dit les femmes souffrent beaucoup moins de la mélancolie, parce qu'à l'époque où Alain écrit ça, donc dans les années 1910 je crois, les femmes sont évidemment occupées par tout un tas de petites tâches subalternes comme les enfants, la cuisine, tout ça. Et il dit les hommes, il faut que nous on aille jouer aux cartes, il faut qu'on sorte dans des salons, parce qu'en fait l'état naturel de l'homme quand il ne fait rien contre sa volonté, c'est le cafard, c'est la mélancolie. Il y a quelque chose de daté évidemment, mais je pense que cette idée d'agir pour ne plus laisser à son cerveau la possibilité de décider de notre humeur, c'est un principe souvent ignoré et salvateur.
Je pense qu'on reviendra sur cette question de mélancolie avec Fabienne Brugère tout à l'heure, qui est un peu la spécialiste du deuil et de la mélancolie chez Freud. Mais il y a quand même une forme de mascarade. Ce qui est très frappant dans le livre, c'est à quel point vous arrivez à déguiser vos sentiments, que ce soit d'un côté ou de l'autre, à être complètement présente. Alors je ne sais pas si c'est une immense force morale ou au contraire un indice d'une capacité à s'échapper du moment, non, à ne pas envisager réellement ce qu'il est ce moment-là.
Mais je pense que c'est peut-être les deux. C'est à la fois une affirmation et une fuite. C'est-à-dire, je pense que j'excelle dans mon métier de femme, dans le sens où je suis très habituée à me diviser pour être la plus présente possible vis-à-vis des gens qui comptent sur moi. C'est-à-dire que dans cette histoire-là où je ne pense plus qu'à l'autre, je fais en sorte d'être présente pour mes enfants autant que je peux, pour mon mari autant que je peux, et puis pour l'amant qui représente aussi une charge mentale d'une manière ou d'une autre. Et à la fin de la journée, je m'aperçois que je ne me suis consacrée à moi que quelques minutes dans la journée pour me brosser les dents, mais c'est tout. C'est-à-dire je pense que les femmes sont majoritairement éduquées pour être comme ça, capables d'effectuer une division d'elles-mêmes à longueur de temps. Et la seule manière de respiration, finalement, c'est l'écriture.
Mais il y a aussi une tension qui vient de ça, évidemment. On a peur de se faire prendre, entre guillemets. On a peur que l'autre découvre à quel point on est passionnément avec quelqu'un d'autre.
Les gens amoureux savent très bien qu'il y a toute une période où effectivement on a très peur de se faire prendre et on fait en sorte de ne pas être pris, on cache tous les détails. Et puis plus cet amour s'installe et plus on commence à devenir sloppy, on laisse des petits détails comme ça, on laisse en fait et on finit par se dire écoute voilà, si je suis découverte, parce que c'est un effort de mentir, et c'est ça le plus cruel, je trouve. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé le plus cruel dans cette histoire, c'était de devoir mentir en permanence pour Dieu sait quelle raison, et de voir le père de ses enfants, donc l'homme qu'on aime quand même, qu'on a choisi, qui nous aime, qui nous veut du bien, devenir haïssable. Parce qu'il ne représente plus qu'un obstacle, il ne représente plus qu'une personne à contourner pour pouvoir vivre une histoire. Et c'est ça qui, je pense, à la fin conditionne aussi peut-être l'aveu et le début d'une histoire d'amour et la fin de la passion, c'est cette volonté de faire en sorte que tous ces gens qu'on s'est mis à haïr parce qu'ils nous prenaient du temps redeviennent aimables, reviennent compléter une vie qui ne peut pas de toute façon être complétée que par l'amant.
Vous écrivez, Emma Becker, les jambes rasées dans la douche et dont on cache la douceur suspecte sous d'épais pyjamas, le désir de l'autre devancer, concentré dans une pipe pour qu'on ne puisse pas s'apercevoir en vous déshabillant que vous vous êtes épilé, les nouveaux vernis à ongles poussant comme des champignons dans la petite armoire de toilette, les photos et les mots doux planqués dans les pages de livres barbants dont on se dit, s'il met la main dessus, ce sera le destin, et alors je dirai tout. Il y a quand même une volonté de se faire prendre aussi un peu.
Sûr, évidemment il y a une volonté de se faire prendre pour pouvoir recommencer à vivre. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un moment où je me dis mon mari, je n'ai pas envie en fait à la fin de ma vie de devoir d'avoir vécu une vie que lui n'aura pas partagée. On se sent soi-même rapetissé dans ce mensonge permanent qui sert à justifier quoi ? Qu'on soit heureux avec quelqu'un d'autre, qu'il y a un moment où une personne nous a rendues heureuses et ça n'était pas notre mari, ça n'était pas la personne dont c'est la raison sociale en quelque sorte. Je trouve que au bout d'un moment, on a envie de se faire prendre aussi par pitié pour soi-même, par pitié par cette division qu'on se sent obligé d'effectuer pour que tout le monde soit heureux, tout le monde sauf nous en fait.
Est-ce qu'on n'a pas aussi besoin que les deux mondes se rencontrent à un moment ou à un autre ? C'est-à-dire que cette séparation entre Emma Becker, écrivaine à Paris ou dans les salons, et puis celle qui rentre chez elle avec son mari et ses enfants, est-ce qu'il n'y a pas un moment où les deux ont envie de se conjoindre en fait, de redevenir la même personne ?
Si, bien sûr, parce que je crois que j'ai eu un moment aussi beaucoup de peine pour cette personne que j'étais dans le midi avec mes enfants et mon mari, et que je méprisais au fond. C'est-à-dire quand je revenais de mes petits week-ends à Paris sous des prétextes fallacieux, je méprisais la vie que je menais. Je la trouvais toute petite et j'ai fini par avoir de la peine pour ce mépris que j'avais de moi-même. Et puis je crois aussi, j'ai fini par penser que c'est pas parce qu'il y a une séparation entre un père et une mère que la vie devient plus petite. Je pense que les gens peuvent aussi agrandir notre existence et qu'un amant n'est pas forcément une menace pour un couple parental. Je vois pas pourquoi le bonheur qu'une mère prendrait ailleurs que chez elle serait fondamentalement nocif pour la vie du foyer. Cette histoire m'a forcée à élargir un peu ma vision du couple qui est aussi l'héritage que je tiens de mes parents, de mes grands-parents. Je crois que le couple monolithique, monoparental, mono-tout n'a pas forcément vocation à être un modèle sain.
Vous écrivez, ça reste la politesse la plus élémentaire de garder ses tromperies pour soi.
Les tromperies, mais les tromperies, c'est pas pareil. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait urgence à communiquer à l'autre un petit coup de 15 minutes, un soir derrière une porte. C'est pas la même chose d'avouer ça que d'avouer qu'on est passionnément amoureux de quelqu'un et qu'il n'y a plus vraiment de sens au-delà de cette histoire. Un petit coup d'un soir, on sait très bien que ça peut nous servir à revenir de très bonne humeur à la maison et ça ne met absolument rien en danger. Une histoire énorme comme ça qui apparaît, c'est un autre genre de mensonge.
Mais justement, l'histoire avec Antonin, vous venez de mentionner quelque chose, un petit coup d'un soir comme étant en fait du corps. Mm-hmm. Mais cette histoire avec Antonin, elle est tellement totale qu'elle rejoint vraiment les deux. Une passion à la fois intellectuelle qui commence par des messages, certes enflammés, mais néanmoins du texte. Et puis, une partie totalement charnelle, extrêmement fusionnelle, même dans la fusion des corps.
Oui, et pour moi, ça, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que autant dans mon avant-dernier livre, L'Inconduite, je racontais toute une succession de coups d'un soir, justement, comme on disait, qui ne faisaient pas grand-chose à part me questionner sur ce que je voulais. Et en tout cas, mon corps n'était pas du tout présent. Je me regardais faire. Et là, c'est une histoire où, effectivement, mon corps brusquement se met à parler. Mon corps se met à ressentir. Et j'ai eu en moi une sorte de frigidité pendant tellement d'années que le véritable miracle se situe précisément dans cette réconciliation du corps et de la tête. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, bon, déjà j'ai 35 ans, je crois que la vie est trop courte pour continuer à mentir comme ça pendant des années, c'est trop fatigant. Et puis, je crois que cet événement, le fait que brusquement mon corps se mette à vivre, ça mérite bien un livre, parce que c'est ma vie, c'est moi heureuse, et je crois que j'ai pas envie que mes enfants lisent mes livres, mais j'ai envie que mes enfants puissent lire au moins un livre où j'étais heureuse.
Ce bonheur, vous le partagez avec Antonin, mais qui lui a une vision tout à fait différente. D'abord parce qu'il n'en est pas au même moment de sa vie sentimentale, si on peut le dire ainsi. En tout cas, son engagement, tel que vous nous le montrez, avec Juliette est différent. Mm-hmm. Et puis lui, on le sent plus, attentif. Il est un peu... J'ai l'impression qu'il partage pas forcément toujours, en tout cas c'est comme ça que nous apparaît le personnage, votre passion totale. Qui est justement celui qui reste assis dans son fauteuil un peu, à vous attendre, certes. Mais
je pense qu'il y a une réponse tout à fait, et j'en ai parlé plus tôt, la différence c'est les enfants en bas âge. Je pense que... quand on regarde les obligations d'Antonin à ce moment-là, qui sont des dîners, s'occuper de ses enfants qui sont déjà grands, tout un tas de mondanités qui font qu'il ne peut pas répondre immédiatement à mes textos, c'est sûr que moi, depuis ma lunette, mes obligations étant les rendez-vous chez le pédiatre, amener les enfants à l'école, tout un tas de petites tâches qui, comme ça, jalonnent ma journée, ça n'est pas le même frein, ça n'est pas le même désespoir. C'est pas la même chose de se dire « Ah là, je vais pas pouvoir la voir pendant une semaine parce que j'ai tout un tas de dîners. » Et moi, pensant, en fait, jusqu'à ce que mes enfants soient majeurs, je n'aurai pas de temps pour une autre histoire. Vous pensez bien que forcément, ça conditionne un désespoir qui n'est pas du tout le même. Mais heureusement qu'Antonin représente cette espèce de bloc qui n'est pas tellement inquiet par quoi que ce soit, qui se laisse vivre. Parce que ça m'a permis d'avoir un petit peu de recul aussi. Et puis, lui n'a pas du tout le même caractère que moi. Lui, c'est plutôt un mec qui, effectivement, est capable d'avoir tout un tas de maîtresses auxquelles il ne s'attache pas. Moi, ma faiblesse, et je pense ma chance aussi, c'est que j'ai un tempérament beaucoup plus inflammable que lui. Et que on s'est tous les deux complétés dans des moments où peut-être lui s'inquiétait de choses qui, moi, ne m'inquiétaient pas, parce que je les avais déjà vécues. Et lui était capable de m'apaiser sur plein d'autres sujets.
C'est-à-dire qu'on est possédé, envahi par l'autre, l'image de l'autre, le plaisir qu'il peut vous apporter, enfin tout ce que représente l'autre avec A majuscule d'une certaine façon, mais celui-là est pas un autre, hein, parce que sinon là on n'est plus dans la passion. Hein. Et puis de l'autre côté, on a l'impression effectivement d'être sans doute dépossédé de soi, puisqu'on est possédé par l'autre. Mais en même temps, je crois qu'on est ramené à quelque chose à soi-même, à quelque chose d'extrêmement enfoui, quelque chose qu'on ne connaît pas, et qui vous donne le sentiment, c'est ça quand même la passion, d'exister complètement. C'est-à-dire que l'existence suffit à ce moment-là. Il y a une phrase que je me demandais d'ailleurs de qui elle était jusqu'à ce que je la retrouve. Elle est de Camus au début de L'envers et l'endroit. Et il dit « L'amour seul nous ramène à nous-mêmes ». Et je crois que je l'avais gardé du tréfonds de mes lectures d'adolescente. Vous voyez, c'est vrai, je crois, que ça nous amène dans l'enfance, souvent.
Nous venons d'entendre l'autrice Annie Ernaux au micro de Catherine Pont-Humbert sur France Culture en 2012. Être entièrement l'autre, entièrement dans l'autre, ne faire qu'un, c'est exactement votre propos, Emma Becker.
Alors, oui et non, parce que si vous voulez, comme j'ai beaucoup aimé, j'ai été souvent amoureuse, j'ai un certain recul par rapport à ce qui m'arrive, c'est-à-dire, et je pense que ça se voit au début du livre, j'ai conscience que l'autre, au tout début, quand on tombe amoureux, l'autre active une mécanique qui est en fait autosuffisante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on aime au tout début? Je crois pas que ce soit exactement l'autre, je crois que c'est soi-même dans cet état d'amour. Parce que vous avez vu les couleurs du monde quand vous tombez amoureux, vous avez vu comme brusquement tout devient une joie, tout devient un événement. Et je crois qu'il y a un temps où l'autre est tout à fait interchangeable. On s'en rend pas compte parce qu'on a le nez dedans. Mais quand on en sort, enfin, le nombre de pandards dont je suis tombée amoureuse pour m'apercevoir 6 mois après qu'en fait, c'était moi que j'aimais à travers eux.
Emma Becker, vous venez de plonger la France entière dans l'adultère.
Au moins,
pour voir des lumières.
mais ceci dit, peut-être que ce sont effectivement des choses qui sont déjà présentes en nous et que l'autre vient activer et mettre en lumière. Et ça ne sert à rien de dire à quelqu'un d'amoureux, t'es pas amoureuse de lui, t'es amoureuse de toi-même. Ça, c'est quelque chose dont on se rend compte après. N'empêche qu'au tout début, j'ai cette conscience-là et c'est aussi pour ça que je me méfie de moi-même parce que j'ai tendance à me dire, serait-il possible que ce soit la 100e histoire où tu tombes amoureuse de ta propre exaltation? Et c'est aussi pour ça que j'écris ce livre, parce que je me dis peut-être que je vais trouver la réponse à ça.
Fabienne Brugère, est-ce que si c'était si simple que d'être amoureux finalement de soi-même, le désamour en serait peut-être aussi beaucoup plus simple en fait en réalité?
C'est-à-dire que oui, je pense qu'en partie on aime soi-même dans un état amoureux parce qu'on se sent parfaitement exister, et pas en noir et blanc, mais avec toutes les couleurs, on pourrait dire, de l'arc-en-ciel. Mais il me semble qu'on ne peut pas penser le désamour sans... Enfin, on ne peut pas passer l'amour sans le désamour. De la même manière qu'on ne peut pas penser la violence, enfin la passion, sans sa violence. Et donc, le désamour, je pense que c'est aussi une manière de se sentir exister. Et que c'est aussi une manière de se rapporter à soi-même, si bien évidemment c'est une épreuve. Parce que c'est une épreuve par laquelle on doit justement se dépassionner. Et là-dedans, il y a effectivement un grand risque, mais il y a sans doute la possibilité d'un retour à soi-même et d'une épreuve d'existence.
Fabienne Brugère, dans votre essai « Des aimés », qui est un peu une sorte de catalogue de façons de se relationner à l'autre et à la douleur de la séparation et du manque, et vous citez aussi beaucoup de littérature et qui sont comme autant d'exemples finalement de passions amoureuses, peut-être plus que de réalité finalement de réalité. Toute la littérature est réelle, comme celle d'Emma Becker, mais on sent que la littérature est une de vos sources de prédilection.
Oui, parce que moi je suis philosophe, donc forcément c'est un positionnement un petit peu différent. Et quand j'ai voulu écrire sur le désamour, parce que précisément c'est une chose que j'ai vécue et que mon rapport à la philosophie passe aussi, comme le rapport d'Emma à la littérature, il passe par du vécu. Quand j'ai voulu écrire quelque chose comme un précis de décomposition amoureuse, je me suis rendu compte que ça n'existait pas en philosophie. C'est-à-dire que tous les philosophes écrivent sur l'amour. Et bien évidemment, la philosophie est à ce moment-là une machine à idéaliser l'amour. Tout va bien, quoi, d'une certaine manière. Et donc, je me suis retrouvée face à un verbe que je voulais nommer, que je voulais disséquer, que je voulais expliciter, puis avec rien dans la philosophie. Et bien évidemment, là-dessus, bah, la littérature a une richesse que la philosophie n'a pas, parce que la littérature, elle porte en elle toute la question de l'ambiguïté de l'amour, toute la question de la violence, de la passion, et elle sait bien qu'il n'y a pas d'amour sans la préscience, en quelque sorte, de sa fin, qu'il n'y a pas d'amour sans la peur que l'amour se termine. Or, c'est quelque chose que les philosophes ont complètement oublié.
Parce que c'est pourquoi pensez-vous qu'ils l'ont oublié? Parce que c'est un objet qui, justement, puisqu'il prévoit sa propre fin, ne dure pas et donc c'est difficile à percevoir, à concevoir. Ou est-ce que tout simplement c'est pas un concept en réalité, l'amour?
Moi, je pense de toute façon, l'amour. Si on prend la question de l'amour, l'amour, c'est à la fois une expérience et un concept. Et la philosophie, dès ses origines grecques, elle a plusieurs mots pour dire amour. Elle a à la fois philia, qui renvoie à la proximité entre l'amitié et l'amour. Elle a eros, qui dit le désir. Et puis elle a agapé, qui dit quelque chose comme la proximité avec l'amour de Dieu. La chose, il me semble importante, c'est que on peut considérer, si je vais vite, la chrétienté, la modernité ensuite, comme un mouvement, je pense, de simplification de l'amour. Et au moment où on simplifie l'amour, on l'idéalise et précisément, on oublie la proximité entre l'amour et le désamour. C'est-à-dire qu'on oublie de penser à la fois toute la polysémie de l'amour. Et puis aussi, et je crois qu'Emma fait beaucoup référence à cette question de la polysémie de l'amour, on oublie toute la polysémie de l'amour et on oublie aussi combien l'amour est une manifestation de notre finitude. Donc combien, il faut aussi toujours penser sa fin, mais combien sa fin, c'est une épreuve de vie. Et combien c'est une épreuve de vie qui peut bien évidemment aussi être tragique. On le voit bien dans l'histoire de la littérature, avec par exemple les souffrances du jeune Werther de Goethe, et qui aboutit quand même à un suicide. Donc il y a l'épreuve de vie avec tout ce qu'elle peut porter précisément de lourd, de tragique, de définitif.
Est-ce qu'il faut confondre amour et passion amoureuse? Est-ce que c'est exactement la même chose? Est-ce que la passion, ce serait un peu comme une crise de ce sentiment qu'on appelle l'amour, comme une espèce de d'exacerbation, je sais pas comment dire, de l'amour, le moment de la passion?
Je pense que l'amour romantique nous a appris à un moment donné à confondre l'amour et la passion, et que malgré tout, on est encore très marqué par cela, même si je pense qu'il y a une jeune génération et des personnes comme Emma et d'autres qui vraiment fait éclater cette figure de l'amour romantique, et on voit bien qu'on y croit de moins en moins. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui a énormément marqué notre culture, et en particulier, c'est quelque chose par lequel, je pense, les filles, les femmes ont été énormément imprégnées par tout un nombre aussi de contes de fées, d'histoires, etc. Mais bien évidemment, l'amour, c'est beaucoup plus étendu que la passion. La passion, c'est l'un des registres de l'amour. Et c'est un registre de l'amour dans lequel, effectivement, il y a une tentation très forte parce qu'on se sent complètement exister. Ce que j'ai quand même envie de dire, c'est qu'il me semble qu'à l'âge de ce que j'appellerais notre ultra-modernité, la passion amoureuse, c'est quelque chose d'extrêmement, cela dit, difficile à vivre. Je pense que c'est extrêmement difficile à vivre, plus qu'il y a 20, 30 ans, parce qu'il y a des tas de choses qui diluent la passion amoureuse ou qui la rendent impossible. Il y a des tas de choses qui la diluent, comme les sites de rencontres. Il y a des tas de choses qui la rendent impossible parce qu'on
comment
a des vies impossibles.
Comment est-ce que les sites de rencontres diluent l'amour?
Ils peuvent.
On a l'impression que ça les concentre, au contraire.
Les sites de rencontres, Et là, je pense aux travaux d'Eva Illouz. Ils peuvent quand même tout à fait jouer, pas forcément, mais dans le cadre d'un, si vous voulez, d'un capitalisme émotionnel,
ah oui,
où les individus sont toujours jetables, on en perd un, on en trouve un autre, ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir d'autres rapports au site de rencontre. Une passion amoureuse, elle peut très bien se déclencher par une rencontre aussi, par ce biais-là, mais ils rendent possible davantage précisément des formes de banalisation de non-amour finalement. Si on en arrive à considérer l'autre comme étant vraiment la personne complètement interchangeable, si on est vraiment dans une sorte de frénésie de la consommation sur laquelle on ne veut pas réfléchir.
Qui serait une forme d'illusion en réalité.
C'est-à-dire que, là où je vois surtout l'illusion, c'est aujourd'hui dans la définition qu'on donne de l'amour. Vraiment, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'il me semble, et ça c'est peut-être mon regard de philosophe, il me semble qu'on idéalise beaucoup trop l'amour. Et qu'en particulier, on a quand même tendance à faire comme si l'amour se réduisait à 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire au modèle fusionnel de l'amour. Or, il y a vraiment bien d'autres formes de l'amour. Y compris, je ne crois pas du tout à la perspective d'une séparation radicale entre l'amour et l'amitié. Ça me semble une grosse bêtise. Je veux dire, il y a des amitiés qui peuvent se transformer en amour, il y a des amours qui peuvent se transformer en amitié. Enfin, je crois que on est à une époque où il faut finalement vraiment redécouvrir la polysémie de l'expérience amoureuse, mais aussi apprendre, ça c'est le projet du livre, apprendre ce qu'est cette épreuve de vie où précisément une rupture est en train de se jouer et comment on s'y rapporte et comment à partir de là on fait un chemin de vie qui va permettre de mener à d'autres histoires amoureuses, mais qui va faire qu'on va acquérir une expérience amoureuse et qu'on va acquérir une forme d'héritage amoureux qui va permettre d'aimer autrement.
La rupture serait le moment ultime de l'amour dans lequel on peut le regarder un peu à rebours, disons, et en prendre toute la mesure. Et si on en prend toute la mesure, on peut retomber amoureux peut-être d'une autre façon.
C'est exactement ça.
Je sais
à peine comment commenter ce que vous dites maintenant parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est précisément ce moment où à la fois on peut regarder dans le rétroviseur et en regardant dans le rétroviseur, eh bien on peut faire tout un parcours réflexif sur l'histoire amoureuse qu'on a connue et qui se termine. On peut voir aussi les failles d'ailleurs de cette histoire amoureuse. Puis c'est aussi le moment où précisément, eh bien, on peut se donner les moyens d'aller ailleurs, de constituer d'autres histoires qui ne seront plus, qui seront précisément autre chose.
J'aimerais revenir une seconde sur cette question du romantisme, parce que quand je lis Emma Becker, qui me détrompera si je me trompe complètement, Le mal joli, j'ai au contraire l'impression qu'on est vraiment dans une forme d'amour romantique, c'est-à-dire pousser jusqu'au bout de ses possibilités, y compris de ses possibilités physiques, dans le sexe, dans une forme, enfin, de jusqu'au boutisme de l'amour, qui me semble, moi, un peu, peut-être, ou de la passion plutôt, qui me semble correspondre à l'image que pouvaient en avoir les romantiques. Je vois Emma Becker froncer les sourcils, elle n'est pas d'accord.
Je vous rejoins, mais je rejoins aussi Fabienne. C'est-à-dire, moi, j'ai été très frappée quand même par la différence. C'est vraiment deux salles, deux ambiances entre ce qu'on nous apprend, nous, petites filles, parce que c'est ma perspective, de l'amour qui est comme un bain chaud, enfin, qui est l'accomplissement d'une vie. Et puis, ce que représente l'amour quand vous le vivez dans le cadre de la passion amoureuse où tout est un travail. C'est-à-dire, le simple fait d'exister est un travail. Se préparer en attendant l'autre est un travail aussi. La passion, c'est la vitrine de la amour, c'est-à-dire on met de soi tout ce qu'il y a de meilleur, toutes nos propres illusions sur nous-mêmes, et ça n'est pas viable. Donc au bout d'un moment, est-ce que cette passion se transforme en histoire d'amour ou est-ce qu'on s'aperçoit qu'on est gros gens comme devant et qu'on s'est encore une fois, on est tombé amoureuse d'un moulin à vent?
Fabienne Brugère.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Emma, c'est-à-dire que aujourd'hui tout est travail. la passion et travail malgré les emportements, le désamour et travail malgré le désespoir qu'il peut produire. Et je crois que, en tout cas moi pour ma part, dans la lecture que j'ai fait du mal joli, ce qui fait qu'on n'est pas dans le cadre strict d'un amour romantique, c'est l'approche que j'irais réflexive dans l'autofiction. C'est-à-dire, c'est le fait qu'à côté de la passion, il y a l'histoire familiale, il y a les enfants qui renvoient vraiment à ce qu'est notre ultra-modernité gouvernée parfois par la tâche mentale. Il y a toute la trace aussi de la situation des femmes, de ce qu'elles essaient d'inventer en termes justement de relations de couple, de relations amoureuses. Il me semble qu'il y a une vision du couple qui n'est justement pas celle de l'amour romantique.
Et vous écrivez, Fabienne Brugère, que l'ennui est un signe annonciateur du désamour.
Oui.
Et j'ai trouvé ces pages absolument magnifiques. Parce que vous parlez de ce moment où justement vous dites l'intimité ne peut plus se nommer, c'est-à-dire qu'il y a un moment où même le sexe, le rapport des corps n'est plus possible à force d'ennui en réalité. Hein. Et vous dites l'intimité ne peut plus se nommer, elle s'est absentée dans l'ennui. J'ai trouvé ça absolument magnifique.
Ben, c'est ça aussi des aimer. C'est se rendre compte qu'on s'ennuie. C'est se rendre compte qu'à la fois les corps ne se rencontrent plus, qu'ils ne peuvent plus se rencontrer, on pourrait même dire mécaniquement, qu'il y a une absence de la rencontre des corps, du dialogue des corps, et puis c'est se rendre compte aussi qu'il y a non seulement une absence de la rencontre des corps, mais une absence aussi de la rencontre des esprits, des âmes, et que précisément à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire il n'y a plus rien à faire, parce que précisément tout devient absence. Tout devient vide et on a beau essayer de pédaler et on a beau essayer d'expérimenter le vide, d'expérimenter l'absence, y a nécessairement un moment où ça craque et où ça craque très très fort.
Comment est-ce qu'il est possible de repeupler justement cette absence? Est-ce que c'est quand même possible ou pas d'après vous?
Si vous voulez, qu'il y ait des moments d'ennui, de petits ennuis dans la vie d'un couple ou dans la vie ou dans une histoire amoureuse, ça peut arriver. Le problème, c'est quand l'ennui devient un mode d'existence et que précisément on n'arrive plus à le chasser. Et donc, je pense que dans ces cas-là, je vois pas comment on peut rattraper les choses.
Mais est-ce que c'est pas un peu confondre amour et conjugalité,
c'est-à-dire... Non, ennui et plénitude aussi.
Ennui,
peut-être.
Oui. Enfin, oui. Oui, parce que non, je parle pas forcément de l'expérience conjugale.
D'accord.
Bien évidemment, il y a une spécificité de l'expérience conjugale, c'est-à-dire que la question qu'on a aujourd'hui, que vient de poser Emma aussi à sa manière, c'est très concrètement dans nos sociétés, comment on fait durer une expérience conjugale? Comment, par exemple, on la fait durer par-delà des enfants, si on en a, que l'on a en commun? Il y a quand même toute la question aujourd'hui de la durée au moment où les couples se composent, se décomposent, se recomposent, au moment où des personnes choisissent la possibilité du polyamour et s'entendent là-dessus, etc., etc. Mais donc il me semble qu'il y a quand même une spécificité de la conjugalité quand on veut la faire durer. Et que là, l'ennui est particulièrement une expérience que l'on a tous les risques de faire en haute intensité, en quelque sorte. Et donc il y a quand même une spécificité de la conjugalité, puisque la conjugalité reste quand même le mode d'existence majoritaire dans nos sociétés des gens qui se disent amoureux.
Oui, Fabienne Brugère, vous, parmi tous les cas, on va dire, tirés de la littérature dont vous parlez, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire des Emma Becker comme Anna Karénine, par exemple, qui fait le pari de son amant et qui se rend compte que son amant, finalement, il va beaucoup plus s'intéresser à ses chevaux de course et aux courses de chevaux qu'à elle, alors que la passion était pourtant extraordinairement puissante. Donc il y a aussi une forme de risque ou d'aventure dans l'acceptation de la passion ou de l'aventure extra-conjugale, qui représente peut-être aussi une grande partie de son intérêt, en réalité, ce risque.
Oui. Même si j'ai envie de dire que souvent la littérature n'aide pas les femmes. Ouais. Parce que c'est quand même souvent aux femmes, Anna Karénine, voilà, Emma Bovary, qu'il arrive quand même cette idée que l'aventure tourne mal. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi en littérature des livres où, dans lesquels l'aventure tourne bien. C'est-à-dire ces moments où lorsque les femmes choisissent la passion, eh bien finalement, ça ne se passe pas comme Anna Karénine ou comme Emma Bovary.
Emma Becker, et d'ailleurs, c'est une question que je me poserai à la fin, que je ne me suis pas posée, mais que je me pose maintenant à propos du Maljoli. Est-ce que ça finit bien? Je suis pas sûr, en réalité.
Ah, écoutez, je trouve que ça finit plutôt bien. Je trouvais ma fin, justement, d'un romantisme très subversif à notre époque. Non, mais est-ce que c'est...
Est-ce que la passion gagne? Je sais pas. Parce que
c'est pas la passion qui gagne. Ouais, c'est l'amour. Ouais. C'est l'amour. C'est-à-dire, c'est ce qui reste une fois que la passion est quelque part officialisée et peut retrouver des proportions viables. Parce que il n'est pas question, évidemment, de devoir, pendant 10 ans avec la même personne, vivre comme ça constamment sur la brèche, à ne penser qu'au corps de l'autre, à l'anéantissement de soi dans l'autre, dans le plaisir. Personne ne peut vivre comme ça et ça n'est absolument pas souhaitable. Et on ne peut pas exiger ça de quelqu'un avec lequel on partage son existence. Il faut au bout d'un moment aussi s'éloigner de ce que j'appelle cette vitrine de l'amour, où l'autre vous donne à voir tout ce qu'il a de mieux et vous faites exactement la même chose. Il faut aussi un moment que cet amour soit viable en étant capable de voir les défauts de l'autre, ses défauts à soi, et de voir si les choses se combinent. Et je pense, pour revenir sur cette question de l'ennui qui était très intéressante, peut-être qu'on a aussi beaucoup valorisé justement l'amour qui brûle, qui fait mal, au détriment de l'amour tranquille, qui parfois, oui, peut-être confondu avec, on se fait un peu chier sur le canapé, n'empêche que quand on n'est plus dans le canapé avec cette personne, eh ben on peut en être très triste aussi. Donc je crois qu'il y a aussi tout un ennui dont vous parliez, qui est celui de la conjugalité, à apprivoiser et à revaloriser, parce que je crois que dans cet ennui, entre guillemets, il y a aussi une possibilité de s'épanouir et de s'écouter beaucoup plus par rapport à ce qu'on s'écoutait quand on aimait l'autre et que l'autre était un dieu.
Ça, c'était un peu le propos de L'Inconduite, d'ailleurs. Par moments, il y avait beaucoup de scènes de canapé, de très, très conjugales, de retour au bercail.
Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aimer plus ces moments sur mon canapé où, effectivement, j'ai l'impression de m'emmerder, mais c'est parce qu'en fait, je suis heureuse. Et je crois qu'on confond beaucoup le bonheur avec l'ennui, parce que souvent le bonheur ne vous secoue pas, il vous accompagne.
Fabienne Brugère, voilà une question pour une philosophe.
Ah oui, exactement. C'est-à-dire que je crois que la modernité, elle nous a toujours accoutumés à la perspective individualiste de la vie intense. Mais la vie intense, ce n'est pas toute la vie. Ce que nous ont montré aussi les philosophes issus de l'Antiquité, c'est que la vie, c'est aussi la vie que l'on construit jour après jour avec les autres, dans le cadre d'un rapport à soi qui est tout autant un souci de soi qu'un souci des autres et un souci du monde. Et donc il y a aussi tout ça dans l'amour.
Mais est-ce que l'ataraxie est forcément synonyme de bonheur ultime? Pas du tout, en réalité. Je sais pas, c'est pas l'impression que j'en ai, en tout cas. au contraire, je reste peut-être romantique à espérer dans l'amour et par moments la passion amoureuse, je ne sais pas comment le représenter, comme une espèce de constante sur laquelle il y aurait des pics, effectivement, dans un sens ou dans l'autre, mais qui resterait quand même une constante et pas une illusion.
Dans l'amour, il y a l'événement de la rencontre. Et c'est sûr que dans l'événement de la rencontre, bah, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose d'intense, il y a quelque chose d'inexplicable, de singulier, etc. Mais je crois que dans l'amour, il y a aussi toute la manière dont on construit et dont on arrive à construire quelque chose de durable. Et dans l'idée de construire quelque chose de durable, bah, il y a effectivement un aspect qui est aussi assez laborieux, qui peut être aussi assez gris. C'est toute la question de la durée et du temps construit.
Ce dur désir de durer dont parlait Éluard. Fabienne Brugère, il y a aussi un autre aspect dans le livre que j'ai trouvé tout à fait passionnant, c'est ce rapport justement au deuil et à la mélancolie. C'est-à-dire de se dire, il y a dans, comme s'il y avait à l'intérieur même de l'amour déjà une forme d'énergie qui peut être positive ou négative, mais cette énergie est là, et quand on retire l'aspect positif, ce qui revient, c'est justement la mélancolie par absence de possibilité de faire le deuil de ce souvenir d'amour, de cette présence de l'amour. Et ça, c'est je pense qu'on a tous cette expérience-là.
Ah, bien sûr. C'est ce moment, enfin, là-dessus, Emma parle aussi de la mélancolie. Moi, ce que j'ai repris sur la question de la mélancolie, c'est un texte de Freud que j'aime beaucoup, qui est donc un texte sur, au départ, sur le travail du deuil et sur le fait que quand quelqu'un disparaît, qu'il disparaisse physiquement ou qu'il disparaisse parce qu'on s'est séparé, il y a la nécessité de faire un travail de deuil. C'est-à-dire, il y a la nécessité de désinvestir toute libido à son égard, de désinvestir tout désir. Le problème, c'est qu'il y a toutes ces situations où précisément on n'arrive pas à désinvestir cet objet de son propre désir, de sa propre libido. Et ce que dit Freud, c'est que dans ces cas-là, quand on n'y arrive pas, ben, y a production de mélancolie. Et alors lui, ce qu'il ajoute, c'est que cette expérience de la mélancolie, ça va avec l'impossibilité de construire ou de reconstruire une estime de soi. Donc il met ensemble la mélancolie et finalement l'impossibilité de se soucier de soi. Donc Freud nous dit surtout faites votre travail de deuil. Et je crois qu'effectivement désaimer, le processus du désamour que l'on engage ou que l'on n'engage pas, mais l'engager, c'est justement pouvoir procéder à un travail de deuil. C'est faire comme un travail de deuil, mais après on est dans le domaine du volontaire et de l'involontaire. Donc forcément, c'est pas parce qu'on décide qu'on va faire ce travail de deuil qu'on va forcément y parvenir.
Avant de nous quitter, je voudrais qu'on parle juste deux minutes de Proust, qui est un des exemples de désaimer. Et je sais qu'il y a quelque chose de proustien chez Emma Becker, dans cette volonté un peu de s'explorer comme ça par la littérature. Et donc les pages que vous consacrez à Proust sont absolument passionnantes parce que on peut relire La Recherche du Temps Perdu aussi comme un manuel de désamour. C'est-à-dire que ce pauvre Marcel, si on y pense bien, ça marche jamais bien pour lui. Non seulement pour lui, mais pour les personnages autour de lui. Swann, Odette, c'est quoi la catastrophe. Lui, les promesses de Gilbert, finalement son premier amour, sont pas tenues du tout. Albertine, catastrophe absolue. Donc il y a ça dans la Recherche du Temps Perdu. C'est à la fois un peu un manuel aussi, et peut-être les grands livres sont ça finalement, un manuel d'amour, de désamour et de trahison.
Ah ben moi j'ai toujours été frappée chez Proust à la fois par Marcel, par le fait qu'il n'aime que dans l'absence, mais aussi dans Un amour de Swann, par le fait que le jour où Swann comprend pourquoi il aime Odette, il n'aime plus Odette. Donc, oui, Proust, c'est vraiment une usine à démystification de l'amour. Et en même temps, c'est aussi le fait qu'on ne vit qu'à travers l'amour, mais comme un fantôme, comme un spectre.
Proust tue l'amour.
Oui, je ne ferai aucun commentaire.
Merci, merci. Merci beaucoup, Fabienne Brugère. Des aimés est paru aux éditions Flammarion. Et merci, Emma Becker.
Merci.
Le mal joli est paru aux éditions Albin Michel. Cette conversation littéraire était réalisée par Camille Maty avec Manuel Couturier à la technique aujourd'hui. Merci à Aurélie Marsay pour la préparation. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure si tout va bien. Mais d'ici là, vous pouvez réécouter ou podcaster la conversation littéraire sur l'application de Radio France ou le site de France Culture.